Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement, mais le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces mots nous disent à la fois la nature de la perfection chrétienne, sa mesure, son extension et son double objet. Alors voyons ces quatre choses, si vous le voulez. D'abord, la perfection chrétienne consiste dans la perfection de la charité. C'est sa nature. « Tu aimeras », dit notre Seigneur. Et c'est ce que dit saint Paul aussi. « Par-dessus tout, dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, « ayez la charité qui est le lien de la perfection ». Et c'est aussi l'enseignement de saint Thomas qui a largement commenté tous ces textes. « La perfection de la vie chrétienne, dit-il, se prend spécialement de la charité. » Ultimement, nous le savons, l'homme est appelé par grâce à posséder Dieu éternellement dans la vision béatifique. C'est en cela que consiste sa béatitude suprême. Cependant, ce but auquel nous sommes destinés ne se réalisera qu'au ciel. Ici-bas, nous ne pouvons pas voir Dieu. Et pourtant, si nous ne pouvons voir Dieu, c'est-à-dire le connaître parfaitement sur cette terre, nous pouvons déjà l'aimer parfaitement. C'est-à-dire, l'aimer parfaitement, c'est lui être uni, et cela d'une union effective et immédiate, et c'est par la charité précisément que cela se réalise. La charité, c'est une participation au propre amour trinitaire que Dieu se porte à lui-même. Saint Paul le dit encore dans l'Épître aux Éphésiens, « Dieu nous a choisis dès avant la constitution du monde pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence. » C'est donc le but de notre vie. Et saint Paul ajoute « dans la charité ». C'est par la charité que nous pouvons devenir des saints. C'est cela qui est le principe de la sainteté, de la perfection chrétienne. La perfection de la charité, c'est donc le but de notre vie. Et c'est pourquoi Dieu en a fait un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ce n'est pas un conseil ni une simple invitation, c'est un commandement. Cependant, il faut le préciser, et c'est saint Thomas l'explique très bien là encore, il dit que la perfection de la charité ne tombe pas sous le commandement comme matière du commandement, en ce sens que nous devrions être parfaits de facto, de fait, ce qui est évidemment n'est pas possible en cette vie. Il est clair que ici-bas, nous n'arrivons pas à être parfaits, comme le bon Dieu nous le commande. Donc, ce commandement de la charité tombe sous le précepte comme la fin à laquelle nous devons tendre. Ce qui nous est commandé, c'est de tendre à la perfection. C'est ce que dit le sermon sur la montagne, « Estote perfecti », soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et nous l'avons déjà plusieurs fois signalé, mais vous remarquerez que ce petit mot qu'on trouve dans le sermon sur la montagne, « Estote perfecti », en latin, c'est un impératif futur, pour bien montrer justement que ce qui nous est commandé, c'est de tendre à la perfection. Pas d'y arriver du premier coup, ni même d'y aller obligatoirement par les moyens les plus courts. Le religieux, par exemple, par ses vœux, cherche à tendre à la perfection par les moyens les plus courts. Mais tout le monde n'est pas tenu à cela. Tout le monde ne s'engage pas par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Mais tous doivent faire tous leurs efforts pour tendre à la perfection. C'est un précepte, un commandement. Et dès lors que nous avons reçu le baptême, nous avons promis cela. Alors, pour être plus précis, pour développer davantage, et c'est la deuxième chose que nous enseigne la parole de notre Seigneur, qui est rapportée dans l'évangile d'aujourd'hui, comment donc devons-nous aimer Dieu? Selon quelle mesure, en d'autres termes? Là encore, les mots sont très expressifs. Tu aimeras de tout ton cœur. Le tout est très important. Tout, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que la perfection de précepte, cette perfection qui nous est commandée, dans son plus bas degré, c'est-à-dire dans ce qui est requis au salut, consiste à ne rien aimer plus que Dieu, ou contre Dieu, ou autant que Dieu. Il faut que Dieu l'emporte sur tous nos amours, qu'aucun de nos amours ici-bas ne prenne la place de Dieu. Et saint Thomas ajoute, celui qui n'atteint pas ce degré de perfection n'observe aucunement le précepte. C'est important de comprendre ça et de bien le méditer. Et puisqu'il s'agit d'une perfection, évidemment, il ne faut pas s'en tenir là. Il ne s'agit pas uniquement de faire le minimum. Qui dit perfection dit croissance. La charité doit croître sans cesse. Elle doit tendre non seulement à rejeter tout ce qui lui est contraire, c'est-à-dire le péché mortel qui sépare de Dieu, mais encore à rejeter tout ce qui empêche l'âme de se porter vers Dieu de tout son élan. L'amour a pour loi de se donner totalement et sans partage. Saint Bernard a ce mot qui est très connu, mais qui est très profond. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. La charité n'a pas de mesure. Si on met des bornes à la charité, on perd la charité, tôt ou tard. Dieu doit donc être aimé totalement. C'est-à-dire qu'on doit aimer tout Dieu, sans rien exclure, et de tout notre pouvoir, de toutes nos forces. Le précepte de la charité ne se borne pas à prescrire un minimum. Il oblige à rechercher la perfection et à y croître sans cesse. Encore une fois, c'est sa loi. Et les saints, d'ailleurs, ont multiplié les formules pour exprimer ce devoir de tendre à la sainteté. Ces formules sont très nombreuses, je vous en cite quelques-unes. On en trouve beaucoup, notamment chez saint Augustin. Saint Augustin dit « Ajoute toujours, marche toujours, progresse toujours ». Vous voyez, cette répétition sur le « toujours » nous montre bien ce que Dieu attend de nous. Et il ajoute « Dès que tu dis « c'est assez », tu es perdu ». Il n'y a pas de palier dans la vie chrétienne. Il faut toujours aller de l'avant. Saint Augustin toujours ajoute encore ces phrases, ces paroles. « Malheur à qui de son cœur fait deux parts, l'une pour Dieu et l'autre pour le démon. Dieu s'indigne d'être placé sur le même pied que son adversaire, il se retire et le démon prend tout. » Et de fait, l'expérience montre que c'est bien ainsi que les choses se passent. Saint Bernard, maintenant, dans la voie du salut, ne pas progresser, c'est régresser. Et l'imitation de Jésus-Christ, ce livre qui est un trésor que tout chrétien doit avoir dans sa bibliothèque et qu'il faut lire régulièrement, l'imitation dans son livre premier dit « Tu ne progresseras que dans la mesure où tu te feras violence ». On ne peut conquérir le ciel qu'à la pointe de l'épée. Il faut se faire violence pour croître en charité. Mais à quoi plus précisément s'étend cet amour total que nous devons avoir pour Dieu? Qu'est-ce qu'il implique concrètement pour nous, ici-bas sur terre? Et c'est la troisième chose. Car nous pourrions objecter que nous ne pouvons aimer Dieu toujours. Quoi que nous venions de dire, ajoute toujours, marche toujours, progresse toujours, il est clair, l'expérience le montre, que même les meilleurs chrétiens pensent à mille choses chaque jour et s'appliquent à des occupations très nombreuses qui ne regardent pas directement l'amour de Dieu. Alors, n'y a-t-il pas dans ces mots « aimer Dieu parfaitement, en tout, toujours, dès ici-bas » une pieuse exagération de langage? On pourrait se le demander. Eh bien non. Mais évidemment, il faut distinguer, il faut expliquer. Si l'on entend cette perfection d'une perfection absolue qui consisterait à aimer Dieu autant qu'on peut l'aimer, autant qu'il est aimable, en soi, et autant que nous, nous pourrions l'aimer, alors une telle perfection, évidemment, est réservée à Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui se connaisse parfaitement et qui s'aime parfaitement de manière absolue, c'est clair. Ça n'est pas le partage des hommes, ni même des anges, de pouvoir atteindre à cette perfection-là. De même, si l'on entend cette perfection d'une perfection qui répond à toute la capacité de celui qui aime, et cela d'une manière toujours actuelle, sans aucune rémission, sans aucune interruption, alors c'est une perfection qui est évidemment réservée aux élus du ciel. Au ciel, on verra Dieu face à face, on l'aimera sans aucune ombre, et non seulement sans aucune ombre, mais sans aucune interruption. Mais si l'on entend cette perfection d'une perfection qui n'est totale ni par rapport à l'être aimé en lui-même, ni même par rapport à celui qui aime en ce sens qu'il se porterait vers Dieu de manière toujours actuelle, mais seulement en ce sens qu'elle exclut tout ce qui répugne au mouvement de l'amour de Dieu, alors oui, une telle perfection est possible sur terre. Une perfection qu'on appellera habituelle. Habituellement, quand bien même nous avons de multiples occupations qui nous retiennent, il faut que la fine pointe de notre âme reste unie au bon Dieu, continue de l'aimer. Alors pour que ce soit réel, il faut évidemment souvent renouveler notre intention d'aimer Dieu, le lui dire, réactualiser cette intention. Mais quand bien même cette intention n'est pas réactualisée, elle demeure, elle est toujours là, l'amour de Dieu continue. Et c'est cela qui nous est commandé. D'où le sens exact de l'énoncé du précepte de l'amour de Dieu, tel qu'on le trouve dans l'Évangile, nous venons de le lire, tel que saint Matthieu vient de nous l'énoncer, on le trouve aussi dans l'Évangile de saint Marc et de saint Luc, et d'ailleurs dans saint Marc et dans saint Luc, la formulation est plus complète. Saint Marc et saint Luc ne se contentent pas de dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit », ils ajoutent « Et aussi de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces ». Qu'est-ce à dire ? De tout ton cœur, ex toto corde. Alors c'est saint Thomas qui explique tout ça. Ce sont des textes vraiment très beaux, très profonds, qui valent la peine d'être connus, d'être relus, médités. Le cœur, dit-il, se rapporte à l'intention. Aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire tout référer à Dieu comme à sa fin. Avoir toujours comme intention profonde, ultime, l'amour de Dieu. Que tout ce que nous faisons dans nos journées, dans nos choix, que tout cela soit toujours référé à Dieu. D'où la nécessité de purifier nos intentions, de ne pas agir par amour propre ou pour des raisons qui seraient pécamineuses, d'orgueil, de cupidité ou autre. Purifier nos intentions, référer toujours nos intentions à Dieu. Ex tota mente, de tout ton esprit. L'esprit se rapporte à la connaissance. L'homme aimera Dieu de tout son esprit s'il soumet parfaitement son intelligence à Dieu en croyant fermement toutes les vérités révélées d'une foi pure et intègre. La pureté de la foi, ça aussi, ça appartient à l'amour de Dieu, au véritable amour de Dieu. La foi, il ne faut pas la séparer de la charité. Les deux vont ensemble. Et c'est d'ailleurs l'objet de la demande qui est exprimée par la collecte de la messe de ce jour, si vous avez fait attention. « Da populo tuo diabolica vitare contagia ». On demande à Dieu de donner à son peuple d'éviter la contagion diabolique. Qu'est-ce que c'est que cette contagion diabolique ? Eh bien, c'est ce qui souille nos esprits, nos intelligences, c'est ce qui nous écarte de la foi et de l'esprit de foi qui fait qu'on ne pourra plus aimer Dieu vraiment parce qu'on aura l'esprit rempli d'erreurs ou d'une foi qui sera tellement amoindrie qu'elle mènera tôt ou tard, que tôt ou tard nous tomberons dans l'erreur. Et l'oraison continue, « Et te solum deum pura mente sectari ». Si on évite vraiment la contagion diabolique, on pourra alors, avec un esprit pur, avec une intelligence purifiée, suivre Dieu seul. Ex tota anima, de toute ton âme. L'âme, ici, se rapporte aux affections. Nous avons tous, dans nos vies, divers amours. Qu'une mère aime ses enfants, c'est tout à fait légitime. Qu'un mari aime son épouse ou qu'une épouse aime son mari, c'est tout à fait légitime. Mais il faut que tout ça soit ordonné à Dieu. Il faut qu'il y ait un ordre dans nos affections. Saint Thomas dit « L'homme aimera Dieu de toute son âme si tout ce qu'il aime, il l'aime en Dieu, c'est-à-dire à cause de Dieu et en vue de Dieu. » Dans la règle de Saint Benoît, on lit ces petits mots qui sont lourds de sens et qui sont très beaux. « Nihil Christi carius, que rien ne nous soit plus cher que le Christ. » Et puis enfin, « Ex tota virtute » ou « Ex tota fortitudine », les deux mots se trouvent dans les évangiles de saint Marc et de saint Luc. Les forces, ici, tu aimeras Dieu de toutes tes forces, se rapportent à l'exécution pratique. L'homme aimera Dieu de toutes ses forces s'il anime et affermit toutes ses activités extérieures, ses paroles, ses œuvres, par la divine charité. Tout ce que nous faisons, et nous en faisons des choses dans une vie, dans une journée. Et souvent, on ne pense pas du tout au bon Dieu, et c'est fort dommage. Alors enfin, et c'est la dernière chose que nous enseigne la parole de notre Seigneur énoncée dans l'Évangile d'aujourd'hui, la perfection de la charité qui nous est commandée regarde à la fois Dieu et le prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc., et ton prochain comme toi-même. Cela ne veut pas dire que la charité est deux objets. Elle est une. La vertu de charité est une. Elle n'a qu'un objet. Mais, comme l'explique saint Thomas, elle a deux actes, dont l'un est ordonné à l'autre comme à sa fin. L'amour du prochain, qui est son acte secondaire, et l'amour de Dieu, qui est son acte principal, et auquel l'amour du prochain est ordonné. Alors en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la raison qui nous porte à aimer le prochain, ce doit être Dieu. Il faut que le bien que nous voulons à notre prochain soit un bien surnaturel, essentiellement. Ce soit vraiment à cause de Dieu, en vue de Dieu. Nous devons aimer dans le prochain. Les petites expressions sont de saint Thomas. Elles sont, dans leur formulation lapidaire, très profondes, très belles. Nous devons aimer dans le prochain ce qui en lui est de Dieu. Il y a toujours quelque chose de Dieu dans le prochain, même dans le plus brigand. C'est une créature du bon Dieu. Ou alors, nous devons l'aimer parce que Dieu est en lui. Il est en état de grâce, ou il a reçu de Dieu tel ou tel don. Ou encore, ajoute saint Thomas, pour qu'il soit en Dieu. Et c'est cela qui anime tous les missionnaires. Quand des missionnaires partent à l'autre bout du monde pour évangéliser les païens, c'est pour que ces païens se convertissent, pour qu'ils soient en Dieu. Tant qu'une âme est sur terre, qu'elle n'est pas décédée, elle peut toujours se convertir et devenir une sainte. Et c'est ça que Dieu attend d'elle. Autrement dit, la charité envers Dieu doit être la cause et la fin de l'amour du prochain. Et la charité envers le prochain est le signe et la preuve de l'amour de Dieu. C'est ce que dit saint Jean dans sa première épître. Celui qui prétend aimer Dieu qui est invisible et qui n'aime pas son frère qui lui est visible, celui-là est un menteur. Alors de tout cela, il ressort que la charité fraternelle est vraiment le complément inséparable de la charité envers Dieu et constitue donc un élément nécessaire de la perfection chrétienne. Cette doctrine, je pense que vous le sentez, est très importante. On peut même dire qu'elle est la plus importante parce qu'elle détermine tout l'élan de notre vie chrétienne. Il faut méditer ces vérités et souvent se redire comme saint Bernard. Saint Bernard se disait cela très souvent, « Bernardé ad quid venisti ?» Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu sur terre? Pourquoi fais-tu telle ou telle chose? Pourquoi recherches-tu tel ou tel bien? Pourquoi veux-tu rencontrer telle ou telle personne? Si vraiment nous nous posons ces questions, eh bien nous pourrons vraiment convertir toutes nos, non seulement nos activités, nos opérations, mais nous convertir nous-mêmes en profondeur. Alors pour terminer, je vous cite quelques extraits d'un très beau texte du Père Emmanuel, du Ménil-Saint-Loup. C'est un texte qui a été rédigé, c'est une instruction de retraite à ses moines, qui a été rédigée le 19 novembre 1897. Voici ce qu'il dit. « La charité, l'amour vrai de Dieu, est ce qu'il y a de plus important dans la vie chrétienne. L'amour de Dieu est le premier commandement, c'est pour ainsi dire le seul commandement, car il les renferme tous. Nous devons aimer Dieu de toutes nos forces, ex omni virtute, c'est-à-dire autant que nous pouvons. Nous devons l'aimer toujours. Il y a eu autrefois des casuistes assez insensés pour discourir sur le temps où il était nécessaire d'aimer Dieu. Les uns disaient, il faut l'aimer, aliquot sies in vita, quelquefois dans la vie, par exemple à l'heure de la mort, ou à peu près tous les 5 ans. Il y a des casuistes qui ont prétendu ça. Le Père Emmanuel n'invente pas. Le grand Bossuet a tranché. Il faut aimer le bon Dieu tant qu'on peut. Si nous n'aimons pas Dieu toujours, qu'aimerons-nous donc lorsque nous aurons cessé de lui adresser nos actes d'amour? La réponse fait trembler. Et pourtant, le précepte d'aimer Dieu est extrêmement négligé par la plupart des chrétiens. Le précepte de l'amour de Dieu a été réduit par le libéralisme qui nous ronge et nous envahit de tous côtés, à des proportions telles que pourvu qu'on n'ait ni tué ni volé, nos chrétiens croient que le paradis leur est dû. Aussi n'entend-on plus guère prêcher l'amour de Dieu. C'est devenu un arôme qu'on mêle de temps en temps à la dévotion. Alors il explique, c'est que, voyez-vous, l'amour de Dieu est impitoyable envers tout autre amour. L'amour de Dieu nous enlève tout, nos caprices, nos fantaisies, il ne nous laisse rien. Aussi les chrétiens peu fervents trouvent que ce commandement est bien lourd, ils le trouvent trop sévère. Pourtant, s'ils savaient apprécier les choses à leur juste valeur, rien n'est plus doux que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est doux à ceux qui commencent à marcher vraiment dans le chemin du ciel, et il est extrêmement facile à ceux qui ont fait du progrès en cette voie-là. Et le Père Emmanuel cite saint Augustin, « Ô mon Dieu, pourquoi me menacez-vous des plus grands supplices si je ne vous aime pas ? N'est-ce pas déjà le plus grand des supplices de ne pas vous aimer ?» Et c'est bien vrai. Alors demandons à Notre-Dame, dont nous allons fêter demain le saint nom, qu'elle nous apprenne la science et l'art de l'amour du bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.